dans l'actualité des idées aujourd'hui, réchauffement climatique, pollution, pourquoi le progrès ne nous sauvera pas éternellement. Avec nous, l'ingénieur Philippe Biwix, auteur en 2014 de l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable et un peu plus tard du désastre de l'école numérique. Dans Le bonheur était pour demain, sous-titré Les rêveries d'un ingénieur solitaire qui paraît au seuil, il revient sur la promesse des scientifiques devenue croyance politique d'un progrès qui sauverait l'humanité en repoussant toujours les limites du possible, des technologies capables de corriger les erreurs humaines et d'inventer un monde d'abondance et de bonheur pour tous. Bonjour Philippe Biwix.
Bonjour.
À quoi rêve l'ingénieur solitaire que vous êtes ?
Alors il rêve effectivement parce que l'homme reste un rêveur. Souvent, les hommes se sont réfugiés dans la religion en rêvant d'un monde meilleur mais pour après la mort. Et puis on a transformé ce rêve aujourd'hui en un rêve du futur par la technologie appliquée, hein, qui vient de Francis Bacon au XVIIe siècle. Alors à quoi je rêve ? Moi je rêve effectivement à un monde où on mettrait toute notre énergie, toute notre science, toute notre intelligence au service du bien commun et effectivement de solutions techniquement apaisées pour la planète plutôt que dans une logique accélérationniste comme aujourd'hui.
Donc vous rêvez encore ?
Oui, bien sûr.
On a besoin de rêver.
Il faut continuer à rêver.
Pour que les choses avancent.
Bien entendu.
Solitaire, mais vous êtes aussi solidaire ? Vous pensez que rien ne se fera tout seul, qu'il faut des actions collectives ?
Oui, bien sûr. Alors, il faut tous les étages. C'est un petit peu l'objet de mon livre. C'est de dire qu'effectivement, il y a une nécessité de solutions ou d'engagements personnels, familiaux. Également, effectivement, à l'échelle associative, territoriale, où il peut y avoir plein d'exemples, plein d'énergie, les AMAP, les circuits courts, les Repair Cafés, les recycleries, ressourceries. Enfin, on voit tout un enthousiasme, le mouvement zéro déchet qui est en train d'émerger à l'échelle des territoires. Donc oui, ça c'est la partie collective et solidaire, mais il faut aussi, de mon point de vue, avoir l'étage du dessus, c'est-à-dire la puissance prescriptive, normative, d'exemplarité aussi du public, enfin du pouvoir public à toutes les échelles, que ça soit territorial, régional ou national, parce qu'il y a plein de choses à changer, y compris au niveau fiscal, par exemple.
Alors plus que les gestes pratiques écologistes, ce sont les grandes utopies sur lesquelles nous vivons depuis des décennies que vous questionnez aujourd'hui, voire remettez en cause. Pour réussir notre transition écologique, il faudrait, selon vous, abandonner un certain nombre de croyances. Pas facile quand on a été élevé, biberonné, surtout vous, l'ingénieur centralien, à l'idée que la technologie et la géo-ingénierie pouvaient faire beaucoup pour nous réparer le monde. C'est le maître mot. Plutôt que de le changer, cette philosophie du progrès, ce techno-solutionnisme BA, comme vous le qualifiez, repose d'abord sur un présupposé complètement biaisé.
Oui, alors il faut reconnaître qu'il y a eu un fulgurant progrès technique et technologique, bon, qui a une tendance à être peut-être exponentielle. C'est en tout cas ce qui fait fantasmer aujourd'hui un certain nombre de personnes sur l'immortalité, sur l'intelligence artificielle forte, sur Hyperloop ou la terraformation de Mars, pour ne prendre quelques exemples. Effectivement, on a vu apparaître récemment un autre type de rêve, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les rêves étaient d'un classicisme fou, c'est-à-dire que Hyperloop, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, ce sont les rêves cornucopiens, les rêves d'abondance par la technologie. Il démarre en réalité dès le XVIIe siècle, et même les rêves d'immortalité ou ce que j'ai appelé les rêves de techno-esclavagisme, c'est-à-dire les robots, les drones vont travailler à notre place, en fait traversent littéralement les siècles, et dès le XIXe, on nous promet le bonheur pour demain justement à travers la technologie. Alors se rajoute à ça aujourd'hui, effectivement, des rêves d'une économie réparatrice, c'est-à-dire que non seulement les technologies vont être vertes, propres, évidemment, et durables, mais en plus, comme on a quand même un peu abîmé la planète, et que nos fabuleux ingénieurs, chercheurs et techniciens du passé n'ont pas fait des omelettes sans casser des œufs, hein, on le voit bien au niveau à minima climatique et sur l'aspect de la biodiversité, mais aussi sur la pollution généralisée. Vous savez que maintenant il pleut du plastique littéralement, hein, même au fin fond de les Pyrénées. Il y avait un très bel article il y a quelques jours de ça sur une étude scientifique qui vient de sortir. Alors c'est l'économie réparatrice. Alors on va nettoyer les océans, on va ressusciter le mammouth, on va faire des bactéries qui vont dépolluer les sols, on va faire de la géo-ingénierie avec des papiers scientifiques qui n'ont de scientifiques, j'en ai peur que le nom, où on imagine par exemple de mettre des millions de pompes alimentées par des mini-éoliennes qui pourraient comme ça recréer la banquise en été au niveau des pôles. Donc effectivement, cette course en avant est un petit peu frelatée parce que malheureusement, voilà, l'expérience montre que les résultats sont rarement à la hauteur des attentes.
C'est-à-dire que si on invente un jour un aspirateur à particules ou un grand balai pour nettoyer l'océan, faudra s'en passer. Il faut arrêter de chercher dans cette direction-là.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on peut essayer. Il y a des projets très enthousiastes.
On le voit en ce moment. Il y a un salon qui se tient, le salon Vivatech, qui présente plein d'innovations positives, des moyens de transport, voitures pour essayer de se déplacer sans polluer, des manières de se soigner ou de consommer, s'alimenter aussi avec des produits moins consommateurs d'énergie. Toutes ces inventions, pour vous, elles font partie de cette course en avant, de cette course folle qui s'est mise en place depuis quelques années.
Pas forcément toutes les inventions, parce que je dirais qu'on a toujours un mélange peut-être de choses qui peuvent être intéressantes et de tarte à la crème technologique. Donc c'est Paul Valéry qui disait, je crois, il y a pire que le faux, c'est le vrai mélangé au faux. Donc on peut trouver des choses intéressantes, mais globalement, effectivement, on oublie très souvent qu'il y a des effets pervers en fait au progrès technologique et qu'on les a déjà vécus, et l'expérience a montré que ça marche toujours de la même manière. Alors deux exemples. Premier effet pervers, c'est l'effet systémique, c'est l'effet déporté. C'est-à-dire qu'on a l'impression de régler un problème avec une technologie, mais en réalité, on va aller créer d'autres problèmes ailleurs. Je vais prendre juste un exemple sur la voiture autonome ou la Smart City. Bon, il paraît que la Smart City pourrait générer de l'ordre de 200 gigaoctets de données par jour et par habitant. Alors, tout dépendra un petit peu de l'équipement de cette Smart City. Ça veut dire qu'en 20 jours, en gros, il faudra avoir doublé tous les 20 jours, on devra rajouter l'équivalent de ce qu'il y a aujourd'hui stocké dans le cloud au niveau mondial. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'installation de data center et de consommation d'électricité, ça risque de générer quelques problèmes. On connaît bien la question des ressources sur les batteries électriques, par exemple, etc. Donc ça, c'est le premier effet, c'est-à-dire, attention, il y a toujours des effets de bord, il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui est propre, il n'y a rien qui est 100% vert, malheureusement. Voilà, même se déplacer, même un vélo, à la limite, l'usure du pneu du vélo sur la route et de la peinture routière quand vous allez traverser, ça amène des microparticules plastiques dans l'océan. Ouais, donc c'est assez affreux. Alors, il y a un deuxième effet qui est plus pervers et peut-être un petit peu moins visible, c'est l'effet rebond. Quand il y a toujours de l'effet rebond quand il y a de l'efficacité ou de l'efficience. Donc aujourd'hui, on propose, par exemple, de dire, bah oui, on va covoiturer, c'est génial d'être à trois dans une voiture. Oui, mais ça marche pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a des gens peut-être qui prenaient le train s'est vidé, il y a des gens qui ne se seraient pas déplacés, et le fait d'amener une offre plus efficace et donc quelque part moins chère économiquement va créer de l'effet rebond, va créer de la demande en plus. Et en fait, c'est toute l'histoire de la trajectoire du numérique, par exemple, aujourd'hui du digital. C'est qu'il y a des progrès fabuleux qui ont été faits sur la consommation des data centers, justement, donc l'architecture est optimisée, on a augmenté la température de fonctionnement pour avoir moins besoin de les climatiser, on les climatise à l'eau froide, maintenant on obtient vraiment des bons ratios d'utilisation de l'énergie, et malheureusement les données qui sont échangées, stockées, produites, doublent tous les 12 à 18 mois, et donc in fine la facture globale augmente. Et donc il n'y a aucun signe aujourd'hui, y compris dans le développement des énergies renouvelables, qui n'arrive pas à suivre au niveau mondial l'augmentation de la consommation et de la production électrique, hein. Faut savoir qu'en gros, une année de standard, on augmente à peu près 2% la consommation électrique, c'est-à-dire 600 TWh au niveau mondial, milliards de kWh, c'est-à-dire à peu près la production ou la consommation française. Bah, sur ces 600, il y en a 300 qui sont amenés par l'éolien et le solaire, formidable, et 300 qui sont amenés par le charbon. Voilà, ça, c'est la réalité. Donc, si on n'arrive pas à agir plus à la source, à être dans une logique de sobriété, de frugalité, dans des solutions quelque part socio-techniques et pas uniquement techniques ou technologiques, eh bien on s'en sortira pas.
C'est votre carafe et votre verre qui sont sur la table du studio.
Oui, absolument.
C'est la première fois qu'un invité vient avec sa carafe d'eau et son verre. Ils sont en quoi?
Non, alors ils sont, je ne sais pas en quoi ils sont. En fait, ils viennent de votre cantine. Donc
ah, ils viennent de chez nous.
Mais c'est moi qui ai
insisté
pour ne pas
voulu
avoir la petite
nos bouteilles d'eau en plastique.
Oui, voilà, j'ai tenté bien. Et puis ça a marché.
Et 3G, 4G, vous avez un smartphone, vous, Philippe Lewix?
Non, enfin, j'ai un téléphone un petit peu qui doit avoir 7 ou 8 ans d'âge. Voilà, alors.
Nokia pour ne pas le nommer.
Je ne connais pas exactement le modèle.
Ce n'est pas encore un téléphone intelligent. Voilà. Donc vous n'êtes peut-être pas tenté par cette 5G qu'on nous promet, ce très haut débit mobile en phase d'expérimentation qui devrait se généraliser un peu partout en France d'ici 2020 et qui nous poussera quand même tous à changer nos appareils si on veut pouvoir en profiter, je crois.
Révolution technologique qui s'annonce, l'arrivée de la 5G. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors la 5G, elle va remplacer la 4G qui nous permet par exemple aujourd'hui de se connecter à Internet grâce à notre smartphone. Et la 5G, eh bien, elle va clairement nous faire basculer dans une autre dimension.
Ouais, prenons un match de Coupe du Monde. Vous allez le voir, vous êtes en tribune, c'est la folie. Et là, eh bien, vous sortez votre téléphone portable, vous le pointez en direction des joueurs et tout un tas d'informations vont s'afficher. Nom des joueurs, leur vitesse de course, nombre de cartons et même pulsation cardiaque. Il faudra simplement que ces joueurs soient équipés de bracelets connectés et grâce à la 5G, le champ de vision des spectateurs va être agrémenté de toutes ces petites informations. L'idée à terme, c'est même de s'affranchir de son téléphone portable pour porter des lunettes connectées, voire des lentilles de contact connectées.
Ça va être trop bien, non, le monde qu'on nous promet.
Ah bah, le bonheur est pour demain, il n'y a pas de, problème voilà. Avec tout ça. On peut trouver
il n'était pas pour demain, voilà. Il est. Vous allez bientôt passer au futur.
C'est ça, voilà.
Et reléguer votre passé.
Absolument, non, mais je pense qu'on peut trouver, malheureusement, c'est là aussi toute l'histoire des technologies. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de séparer le grain de l'ivraie, de séparer les bons usages des mauvais usages. Et pour définir ça, la frontière est tout à fait floue, c'est-à-dire que c'est forcément à base de normes morales, de normes éthiques, de réflexions peut-être même philosophiques. Et on sait que voilà la technique n'est pas neutre et vient modifier son environnement. Donc bon, là, les objets connectés, je pense qu'on peut trouver des choses qui sont très utiles. Je pense par exemple effectivement sans doute à des aspects de surveillance de réseaux de transport, de réseaux de distribution d'eau, etc. Et d'ailleurs ils sont déjà là. Bon, et ça je pense qu'il peut y avoir un vrai intérêt. Et puis il y a des objets connectés un petit peu stupides. Alors je me suis amusé à exhumer quelques exemples. Alors le distributeur de croquettes pour chat connecté par exemple. Alors bon, c'est pas le chat qui est connecté, c'est le distributeur et qui en gros à une balance pour peser votre chat et vous suivez pendant vos vacances l'évolution de son poids sur smartphone. Il va vous distribuer le nombre de croquettes nécessaires et puis il y a un dispositif de reconnaissance faciale parce qu'il ne s'agirait pas de nourrir tous les chats du quartier évidemment qui se présenteraient au guichet. Donc voilà, on voit bien que c'est très, très compliqué de ce point de vue-là. Mais on est obligé de faire ça parce que finalement, moi j'ai pas envie de renoncer au dentiste des années 2010 ou 2020. C'est formidable, la radio numérique et un certain nombre de progrès qu'on a pu faire. Bon, je prends l'exemple médical parce qu'évidemment, c'est l'exemple le plus simple, le moins contestable peut-être. Et puis à côté de ça, on a cette promesse effectivement de dizaines de milliards d'objets connectés à l'horizon, j'en sais rien, 2025, 2030, les prévisions varient un petit peu, et qui effectivement réclame à ce moment-là la 5G, de la même manière que la voiture autonome réclame la 5G. Je vous parlais de l'effet systémique, l'effet déporté tout à l'heure. Alors la voiture autonome, ça serait, paraît-il, dixit Intel, fabricant de microprocesseurs, en 1h30 d'utilisation par jour, ça cracherait 4000 gigaoctets de données. Donc là, effectivement, 1 million de voitures autonomes, je rappelle qu'il y en a 1 milliard de voitures aujourd'hui au niveau mondial et que peut-être on en attendrait 2 milliards si on restait sur les tendances actuelles, mais seulement 1 million, donc 1 millième de voitures qui seraient autonomes, représenterait l'équivalent du trafic internet mondial actuel. Donc vous imaginez bien que pour faire la voiture autonome, il va falloir passer à la 5G. Parce que
c'est par ailleurs tout le parc de voitures qu'il va falloir changer aussi. Hein.
Par ailleurs, ouais. Effectivement, il y a...
Ce qui pose quand même quelques questions.
Ce qui est d'ailleurs, alors, ouais. Ce qui pointe une troisième limite, que pour des questions de temps, j'avais pas souhaité vous exposer, mais qui est l'effet effectivement d'inertie du parc installé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promesse de la voiture autonome qui règle les embouteillages, qui va optimiser du coup les trajets, les transports, la consommation, et qui en plus va être une voiture partageuse à Jérémy Rifkin, qui viendra vous chercher chez vous et qui vous déposera au travail, et puis ensuite aidera la dame retraitée à aller faire ses courses au milieu de la journée. Bah, cette voiture autonome, avant qu'elle soit toute en train de rouler et qu'il n'y ait plus que des voitures autonomes sur les routes pour qu'il n'y ait plus d'embouteillage, ça va mettre combien de décennies, puisqu'on sait que les voitures qui sont aujourd'hui en développement ne sont pas des voitures autonomes, donc elles sortiront dans 5 ans, avec une durée de vie commerciale peut-être de 10 ans, et une durée de vie de 10 ans derrière. Donc à minima, on sait déjà qu'en 2040 ou 2045, il y aura encore énormément de voitures qui ne seront pas autonomes.
Voilà, ce qui crée tout ça chez vous, une grande fatigue à l'écoute de mots comme disruption et autres nouveaux langages qui a pu apparaître aussi avec toutes ces innovations. Pourquoi sommes-nous, malgré tout, si attirés par cette société matérialiste, par cette promesse d'abondance? Pourquoi sommes-nous dans ce que certains appellent aujourd'hui le déni? Vous parlez de dissonance cognitive.
Ouais. Alors, vous savez, la dissonance cognitive, ça a été théorisé par des gens qui avaient travaillé, des scientifiques qui avaient travaillé sur une secte. Les extraterrestres devaient atterrir, et puis finalement, ils sont pas atterris le jour prévu. Et bon, effectivement, il a fallu que les gens s'adaptent d'un point de vue cognitif. Donc, c'est finalement de construire quelque chose sur le fait. On sait très bien que les choses vont plutôt mal, et effectivement, il faut bien continuer à vivre au quotidien. Et donc, on a toute une construction intellectuelle autour de ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses différentes. C'est que d'abord il y a la question de est-ce que nous sommes fascinés par la nouveauté et par le progrès technologique et par la disruption, et là j'ai essayé d'émettre une hypothèse sur le fait qu'après tout c'est peut-être pas si vrai que ça, et que l'être humain n'est peut-être pas aussi innovant et innovateur qu'on souhaite nous le faire croire. Alors, il faudrait tous être dans la logique de la start-up nation, mais en réalité, pendant des millénaires, des dizaines de millénaires, on a tapé sur un silex de la même manière que papa tapait sur le silex et que grand-papa tapait sur le silex. Et je pense que ceux qui tentaient d'innover se faisaient rapidement fracasser le crâne, parce que l'enjeu était d'abord de transmettre la culture qui permettait de survivre dans des conditions qui étaient un petit peu différentes de celles peut-être où l'homme avait émergé. Et ça, c'est une hypothèse que j'ai pas inventée. C'est Lewis Mumford qui parle de ça, notamment dans le mythe de la machine. Et donc, jusqu'au 15e, 16e siècle, en fait, les gens qui étaient innovants étaient des hérétiques. En général, c'était extrêmement rare. Et si vous regardez bien les fondamentaux anthropologiques, peut-être tous les gens qui ont des enfants savent par exemple qu'ils adorent, certes, les surprises de temps en temps, mais ils adorent aussi les procédures, ils adorent les comptines, ils adorent les histoires mille fois répétées. Donc, il y a cette première question. Et donc moi je pense que par exemple dans les grandes entreprises dont beaucoup de gens font partie, où effectivment il y a ce discours managérial autour de la nécessité d'innovation, etc. Moi je pense qu'il y a beaucoup de cadres par exemple qui en fait innovent la baïonnette dans le dos. C'est-à-dire en fait voilà, il faut montrer qu'on est en tendance. De toute façon si on n'innove pas, c'est le concurrent qui va innover. Ou il y a la tyrannie du benchmark, vous savez. Donc si Nantes a son Fab Lab, c'est hors de question que Rennes n'ait pas son Fab Lab ou Bordeaux. Voilà. Donc il y a cette première logique-là, c'est un peu cet effet de mode obligé, de nécessité à avancer comme ça. Et puis il y a toute une logique économique derrière qui existe. Alors les chercheurs sont dans la course à la publication, parce que voilà, il faut publier des choses. Donc parfois ça donne effectivement des papiers un peu truculents. Il y a des consultants qui vont vous expliquer qu'effectivement votre modèle va être disrompu. Moi je préfère disrompu que disrupté, ça me paraît plus correctement français. Donc effectivement à ce moment-là, il va falloir leur acheter des missions de conseil. Et puis vous avez cet effet de mode global. Alors ensuite, il y a effectivement un autre point, c'est que si l'homme n'est pas si innovant ou si innovateur, par contre, il adore imiter. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un qui a imité, qui a innové et qui a eu ce courage effectivement de faire différemment, alors là, les autres vont y aller. Et effectivement, il y en a cette logique de rivalité mimétique, de désir mimétique. On sait que le désir n'est pas autoconstruit. On ne désire que ce que désirent les autres. Et donc, effectivement, on a toute cette logique économique. Tout le monde a plutôt intérêt à ce que la machine grossisse, accélère. Alors c'est les entreprises, parce que voilà, les entreprises vont pas se faire harakiri sur leur chiffre d'affaires, et même si le patron ou l'actionnaire est convaincu, il se ferait immédiatement débarquer s'il proposait d'être vraiment dans une logique très différente de ses concurrents, parce que il y aurait une menace sur l'emploi. La puissance publique n'a pas vraiment intérêt à ce que la machine ralentisse. C'est pas qu'il y a une fascination pour le produit intérieur brut. C'est tout simplement que totalement corrélé à l'évolution du produit intérieur brut, il y a des rentrées fiscales et qu'il faut bien à un moment assurer le service de la dette et puis le paiement des dépenses publiques. Donc il y a toute cette logique là qui est en place. Moi, cette logique, on peut tenter de la remettre en cause. J'ai essayé d'ouvrir quelques pistes, mais moi, ce qui me chagrine le plus quelque part, c'est finalement cette espèce de fascination pour l'entrepreneur néo-schumpeterien à la Elon Musk, vous voyez, un peu. Si, alors, il est sud-africain, mais enfin, on pourrait dire californien pour simplifier. Sauveur de la planète, parce que voilà, c'est comme il va rendre la voiture électrique hype, et puis comme la voiture électrique c'est vert, hein, on va simplifier très vite. Voilà, c'est formidable, il va sauver la planète. Et en réalité, on s'aperçoit que il nous sauve toujours la planète pour après-demain. La promesse, elle est pour après-demain, mais demain, on abîme la planète un peu plus. Et je vais prendre un exemple tiré d'Elon Musk. avec sa big fucking rocket, qui est devenue la big Falcon rocket désormais. Donc voilà, cette fusée en développement qui pourrait peut-être amener 1 million de personnes sur Mars, que sais-je, à l'horizon de la fin du 21e siècle. En tout cas, c'est ses promesses ou ses tweets. Eh bien, cette fusée, il faut quand même monétiser ça un peu plus rapidement parce qu'il faut attirer des capitaux, des investisseurs. Et donc, on pourrait d'abord l'utiliser comme un transport hypersonique pour aller de Tokyo à New York plus rapidement. Et alors, à ce moment-là, ça va abîmer la planète avant de la sauver. Vous voyez. Et on est toujours un peu dans ce système-là.
Mais cette fascination pour vous, Philippe Biwix, est-ce qu'elle est d'abord générationnelle? Vous montrez qu'aux utopies technologiques et économiques se sont ajoutées de nouvelles utopies, des utopies citoyennes. Vous êtes technocritique, vous vous montrez aussi assez piquant avec ces nouvelles initiatives, comme les marches pour le climat qu'ont fleuri ces derniers mois, tous les appels à mobilisation. Néanmoins, est-ce que vous voyez dans des figures comme celui ou celle très, très médiatisée en ce moment de la jeune Suédoise Greta Thunberg, dans les figures de cette nouvelle génération, matière à rebond un peu plus d'optimisme, parce qu'ils n'ont pas été élevés dans les mêmes utopies que les nôtres?
Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je jette pas la pierre à toutes les initiatives formidables. Enfin, je préfère des gens qui essayent de nettoyer le Pacifique plutôt que des gens qui essayent
jettent des bouteilles en plastique
voilà,
dedans.
Voilà, donc ou qui les produisent en faisant semblant de qu'ils ne sont pas responsables de les avoir mis sur le marché. Qui suis-je pour donner des leçons en compilant mes tableaux Excel avec des kilowattheures le week-end en rédigeant des livres ou des articles. Donc, toutes les énergies sont bonnes à prendre et sont intéressantes. Ce que je dis simplement, c'est que ce sont des conditions probablement nécessaires, mais certainement pas suffisantes. Parce qu'on vit dans une économie qui est une économie poussée. Le consommateur, il peut tenter d'être consommateur, mais enfin, ça tourne vite à l'emploi à plein temps et au sport de combat, si on veut réussir à faire ses courses de manière équitable, durable, non pas 4G, et qu'en plus on est zéro déchet et qu'il faut tout faire soi-même. Tout en enchaînant ça avec des contraintes domicile-travail de plus en plus importantes et un travail à plein temps, c'est quand même compliqué. Donc il y a cet aspect-là, voilà, est nécessaire mais insuffisant. Et s'il n'y a pas une poussée réglementaire qui accompagne une demande quelque part, une évolution forte de la société civile, ça me paraît difficile effectivement de croire qu'on va basculer. Et donc j'ai rien contre la logique du petit geste, mais voilà, le petit geste malheureusement ne peut pas suffire. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, tout peut s'ouvrir quand même. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Greta, c'est intéressant, elle interpelle, mais comment est-ce qu'on va pouvoir matérialiser ça concrètement? C'est plus difficile à imaginer, et donc il faut forcément passer par des voies qui sont, il y a des voies réglementaires, il y a des voies fiscales, il y a des voies normatives, et si on reste à écouter les sirènes vertes, il me semble que ça va être effectivement beaucoup de déceptions devant nous. À côté de ça, les jeunes générations, quelle est leur différence avec nous? C'est une notion que j'ai un petit peu essayé d'expliquer aussi. Cette logique du décalage du point de référence, c'est shifting baseline. Donc, qui ont été un peu théorisés d'abord sur les logiques de stock de poissons en diminution par le scientifique canadien Daniel Pauly. Qui en fait s'applique à tout, c'est-à-dire que finalement, oui, aujourd'hui, les jeunes, ils auront vu moins de papillons et moins de grenouilles peut-être que la génération précédente ou que 2 générations avant, 3 générations, et puis peut-être l'effondrement de la biodiversité en cours nous montre que leurs propres enfants verront encore moins de papillons et de grenouilles, mais finalement on s'habitue et que il est extrêmement difficile pour une génération de passer ce vécu à la génération suivante. Et donc moi j'ai l'impression qu'en fait il y a à la fois effectivement ce grand enthousiasme de la jeunesse, c'est normal, la jeunesse est toujours par définition enthousiaste, mais il y a aussi un phénomène d'adaptation, d'habitude qui se met en place, pas de chaque personne, puisque chaque personne peut constater sur sa durée de vie, sur son chemin de vie, les dégradations qui s'opèrent. Hein, je veux dire, on n'oublie pas les conditions dans lesquelles on a vécu son enfance, par exemple, et donc on voit bien qu'il y a plus d'étalement urbain, on voit bien qu'il y a plus d'embouteillage, plus de saturation, et à côté de ça, voilà, toutes les choses se décalent. Alors, là où on peut mettre un peu d'optimisme, c'est qu'on peut décaler la notion de confort dans les deux sens aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit aller vers plus de sobriété, chauffer moins nos logements, être dans des plus petites voitures, peut-être revenir à des voitures de de taille plus modeste avant peut-être d'enfourcher un vélo dans quelques décennies quand on aura pu adapter les pays, c'est des choses qu'on peut faire absolument, je vais pas dire facilement, mais qui, d'une génération à l'autre, les références se décalant, la notion de confort finalement est très relative. Aujourd'hui, on manque de logements étudiants. Moi, j'étais dans un dortoir ou dans des logements à plusieurs quand on était étudiant, et aujourd'hui, si on n'a pas son petit logement à soi, c'est compliqué. Voilà.
Après le livre de Clive Hamilton sorti en 2013, le film Les apprentis sorciers du climat a été diffusé il y a 4 ans maintenant sur Arte. Il rappelait, comme vous, montrait les raisons et des raisons de la géo-ingénierie, un secteur qu'on connaît assez mal et qui invente beaucoup, pas toujours des choses très raisonnables. Extrait de ce documentaire signé Pierre-Oscar Lévy.
Even on the best case scenario,
même dans le meilleur des cas, la température de la Terre va augmenter de plus de 2 degrés dans les prochaines décennies. Si cela se produit, cela provoquera des événements catastrophiques. Et étant donné la gravité des prévisions et le fait que nous n'ayons pas de planète B, nous devrions avoir un plan B. Autrefois, la géo-ingénierie semblait du domaine de la science-fiction. On l'estimait trop cher et potentiellement trop dangereuse. Les gens rejettent d'instinct l'idée qu'on puisse intervenir sur le climat. Pour certains, cette perspective est terrifiante. Ils estiment que les hommes se prendraient pour des dieux.
Ça, c'est un premier clivage. Et il y en a un autre pas si loin que vous rappelez, vous, Philippe Biwix, dans Le bonheur était pour demain. C'est celui entre les cornucopiens qui sont plutôt persuadés, tentés par une société d'abondance, et les doomsdayers, ou autres prophètes de l'effondrement. Vers l'effondrement, est-ce que vous êtes-vous d'accord avec ce constat? Et si plan B, vous ne partagez pas, quel est votre plan C?
Le débat entre les cornucopiens et les doomsdayers, les prophètes de l'apocalypse, il n'a pas émergé ces 5 ou 10 dernières années. Il démarre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, il y a plusieurs conservationnistes américains qui publient des ouvrages très remarqués sur le fait que le monde va à la famine et puis ses ressources, que ce soit des ressources renouvelables, de l'agriculture, les sols ou des ressources minières. Et très rapidement, en face de ces gens issus des sciences dures, vont apparaître des gens issus plutôt des sciences sociales, des économistes, etc., qui eux vont expliquer, au contraire, des futurologues. On invente ce terme de futurologue dans les années 50, et qui vont eux expliquer qu'au contraire, il n'y a pas de problème puisqu'on va faire du progrès technologique. Et donc, on va faire de la dématérialisation. Il y a déjà ces termes-là existent déjà, et le débat existe déjà dès les années 50. Alors, en fait, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, alors ça continue ensuite, avec du côté des Doomsdayers, Paul Ehrlich, avec The Population Bomb, ou le rapport de Denis Meadows, de l'équipe de Denis Meadows au Club de Rome en 72. Et puis, en face de ça, on a des cornucopiens qui, effectivement, nous prévoient, avant l'an 2000, des bases lunaires, des fusées hypersoniques, l'allongement de la durée de vie. L'intelligence artificielle, dès les années 60-70, on trouve des publications qui disent finalement la même chose aujourd'hui que nos personnalités techno-fascinées. Alors, on pourrait dire du coup, un partout, balle au centre, parce qu'effectivement, le monde ne s'est pas écroulé, à date, et puis effectivement, on n'a pas encore les bases lunaires, et on a toujours un petit peu tendance à s'emballer, quand il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, ou des nouvelles possibilités, très très vite, on dit, ah, c'est génial, dans 5 ans, 10 ans, tout va être déployé, et d'ailleurs, le numérique nous donne un très mauvais exemple là-dessus, parce qu'effectivement, ça s'est déployé très très vite, mais il s'agit d'ajouter un macro-système technique à tous les autres, et pas de remplacer. Donc on n'est pas du tout dans la même logique que dire comment on se passe de pétrole ou autre. Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, il faut faire attention à pas hurler au loup trop vite à nouveau. C'est-à-dire qu'en mobilisant sur le discours de l'effondrement, en disant ça va s'effondrer, cette fois c'est la bonne, et c'est avant 2025 ou avant 2030, si ça s'est effectivement pas effondré avant 2030, ça deviendra dur de mobiliser sur un discours environnemental ou écologiste. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement un tel gâchis aujourd'hui que, c'est sur, par exemple, prenons l'exemple de la production agricole, on peut tout à fait réduire les rendements d'un facteur important, 20-30% dans les grandes cultures, en réduisant la quantité d'intrants, la quantité de pesticides. Mais évidemment, à condition, par exemple, de réduire la quantité de viande. 70% des céréales aujourd'hui sont utilisées pour nourrir les animaux. Donc, si vous passez déjà à un repas sur deux dans des pays, disons, développés comme les pays européens, c'est pas devenir forcément végétarien, mais vous libérez des tombereaux de céréales et vous avez la possibilité vraiment d'avoir des plans d'action. Donc, on en a beaucoup sous le pied et il y a cette faculté d'adaptation, de substitution pour un certain nombre de ressources, etc. Il y aura encore du progrès technologique pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a des choses qui se passeront, qui seront bien aussi et qui, de mon point de vue, font que ce n'est pas forcément le manque, la pénurie d'énergie ou de ressources qui pourrait créer un effondrement. Ensuite, on peut faire la liste des 10 plaies d'Égypte et se dire qu'il y a plein d'autres choses, en passant par le système financier, l'antibiorésistance, la grippe aviaire plus, que sais-je, qui pourraient créer d'autres phénomènes, mais certainement pas systémiques et au niveau mondial. À mon avis, beaucoup plus protéiforme qu'on ne le pense, et beaucoup plus bigarré peut-être et territorialisé qu'un effondrement global planétaire du système.
Dans Le Bonheur était pour demain, Philippe Biwix, votre ouvrage qui paraît dans la collection Anthropocène au Seuil, vous faites beaucoup référence à Rousseau, notamment à travers le motif des promenades qui rythme et scande votre réflexion. Quand mes idées seraient mauvaises, si j'en fais naître de bonnes à d'autres, je n'aurais pas tout à fait perdu mon temps. Des idées, vous en avez donc et vous les exposez aussi ici. Et c'est étonnant de voir que concrètement, la plupart des solutions que vous avancez existent déjà. Elles sont déjà dans la nature. Ça va de la réduction de la taille des voitures à une fiscalité environnementale que vous appelez de vos voeux, à la question des emballages plastiques qu'il faudrait revoir aussi. Est-ce qu'au-delà de tout ça, on a besoin aujourd'hui d'un autre grand récit?
Oui, certainement. Alors, on a besoin d'un grand récit, puis on a aussi besoin de courage. C'est-à-dire que je reviens à nouveau sur ce discours qui promeut l'innovation. Donc, on est dans la logique de prise de risque, de l'entrepreneur, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a jamais vécu dans une société aussi peureuse. Donc, on innove parce que les autres doivent innover. On cantonne l'innovation à l'innovation technologique, alors qu'on pourrait avoir de l'innovation dans les domaines économiques, dans les domaines politiques. Hein. On a bien vu le débat autour des gilets jaunes, par exemple. Hein. Donc, Francis Bacon disait dès le début du XVIIe siècle, non, surtout, on n'innove pas dans l'économie et dans la politique, c'est trop dangereux, ça crée des remous, c'est compliqué. Donc innovons, mais uniquement sur la partie technique et technologique. C'est intéressant de voir qu'on est finalement un petit peu toujours dans cette contrainte-là. Et donc la question, c'est effectivement la question du courage, parce que c'est finalement, si vous êtes une puissance publique, est-ce que il faut favoriser le numérique, la blockchain ou des ateliers de réparation de vélos? Bah, si les autres font plutôt du numérique et de la blockchain, on va retomber dans la logique mimétique. Il faut mieux faire comme tout le monde et se planter qu'essayer de faire différemment et risquer de se planter tout seul. Donc à toutes les échelles, dans toutes les organisations, donc que ce soit public ou privé, il y a cette difficulté à commencer à sortir du bois, à commencer à essayer de raisonner différemment, à dénoncer peut-être des contre-vérités. C'est Sol Yenitsine qui disait au milieu des années 70, enfin, c'est le système s'écroulera quand les gens qui sont dans une pièce en URSS, à chaque fois qu'ils entendront quelque chose qui n'est pas vrai, se lèveront et partiront. C'est-à-dire, si on faisait ça aujourd'hui dans l'ensemble des discours autour du développement durable et de la croissance verte, les salles se videraient rapidement. Donc voilà, il me semble qu'on est on est rentré dans un monde un petit peu stalinien de ce point de vue-là. Alors évidemment sans les camps, hein, donc toute proportion gardée, mais et ce qui me semble intéressant autour du discours de l'effondrement ou d'autres, c'est le fait que on commence à avoir des choses qui sont... On était dans l'indicible et on commence à avoir un discours qui commence à dire « Oui, attendez, vous êtes sûr que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va vraiment boucler ?» Et donc, je crois que on a cette possibilité, cette brèche à ouvrir, et qui... Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont enchâssées dans leurs organisations respectives, hein, donc c'est pas forcément évident de réussir à faire bouger les choses dans son entreprise ou dans une administration, mais... Quelque part, ces gens ont envie, et de mon point de vue, on peut avoir une logique de masse critique qui fait qu'à un moment, quand on est suffisamment nombreux à vouloir changer les choses, à tester, à expérimenter, à lancer des pilotes qui peut-être donneront envie à d'autres de se développer eux-mêmes, eh bien, ça peut permettre peut-être effectivement d'ouvrir un nouveau grand récit, une nouvelle utopie. Moi, c'est évidemment un appel à l'utopie. Alors, on sait que les utopies du XXe siècle ont été compliquées, mais bon, voilà.
Un nouveau discours de vérité, voilà. C'est aussi un appel donc au courage politique contre le fatalisme. Merci beaucoup à vous, Philippe Biwix. Les rêveries d'un ingénieur solitaire, Le bonheur était pour demain, vient de paraître au seuil. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et à Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide toujours précieuse de Mathilde Tonfourcade et de Antoine Suzarelli, à qui l'on souhaite un très bon anniversaire. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Anthony Thomasson.